L'interrogation de l'être humain.
La création de l'univers.
Des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
D'Aristide de Sirène jusqu'au mur de mai 68.
L'atome n'est pas un insécable.
Eh oui, Bruno, c'est une spéciale Agora des Savoirs, spéciale parce que vous savez, divergentes et divergents, que l'Agora des Savoirs saison 2, c'est encore cette année sur Divergence FM en direct. Vous savez que c'est une initiative de la ville de Montpellier. Je reçois aujourd'hui Michael Delafosse. Bonjour Michael.
Bonjour.
Et Régis Penalva. Alors je comptais, salut Régis, bonjour. Je comptais aussi recevoir avec vous le troisième mousquetaire Michel Miaille, mais il a décidé d'aller voir, je ne sais pas, le roi peut-être à Paris, je ne sais pas, mais quelle mouche a piqué les mousquetaires de la diffusion des savoirs et des connaissances que nous recevons aujourd'hui de novembre 2010. À juin 2011, on vous en parlait déjà sur cette antenne, chaque mercredi, ces mousquetaires nous donnent rendez-vous au Centre Rabelais pour nous offrir de la connaissance et des savoirs. Peut-être pense-t-il que nous n'avons pas assez de temps pour lire tous les livres. Hélas, tiens, ça me fait penser à Mallarmé, la chair est triste, hélas, j'ai lu tous les livres. Peut-être souhaite-t-il faire une université populaire sans le dire. Peut-être sont-ils sûrs de leur coup et quel coup? On refuse du monde au Centre Rabelais tous les mercredis. Quand je dis tous les mercredis, ça a démarré mercredi dernier et ça redémarrera, ça continue ce soir, on va en parler. Victime de son succès, l'Agora des Savoirs saison 2 est déjà une référence en France. Il faudra prévoir des coussins, messieurs, pour les fesses de celles et ceux qui n'ont plus que les marches de cette ancienne salle de cinéma pour s'asseoir. Alors bon, dans quelle ville de province trouve-t-on autant d'engouement pour ce qui n'est ni un divertissement, quoique quelquefois on se marre aussi. On se rappelle de la saison dernière où on a eu des moments pas piqués des verres et c'est ni une docte chère, ni encore un lieu d'entre-soi où l'on se retrouve à l'écart du commun. L'Agora, c'est le lieu du rassemblement, de la mise en commun, hein, ce commun qui sert ou qui peut servir à tout le monde. Michael Delafosse, salut. Alors, bonjour. Ça part d'une idée, l'Agora des Savoirs. Ah oui. C'est une idée qui est largement passée aux actes.
Aux actes, mais parce qu'il faut que les projets, les envies, les convictions, elles se transforment en actes. Et en préface de la programmation de cette année, il y a une citation qui est très ancienne, mais qui est celle de Condorcet, « Ne refusez à aucun citoyen l'instruction la plus élevée ». C'est le premier à écrire et à parler sur l'éducation pour tous en France. Et donc, cette promesse est-elle tenue? En partie, bien sûr, à travers les écoles, les collèges, les lycées, l'université. Mais ceux qui ne sont plus dans le système de formation, comment peuvent-ils apprendre? Comment peuvent-ils être leur questionnement? Comment peut-il être suscité? Comment peuvent-ils enrichir leurs connaissances? Comment peut-on créer le désir de continuer à apprendre ou le satisfaire? Et pour cela, bien sûr, il y a les livres, bien sûr, il y a parfois la télévision, mais de notre point de vue, il manquait un dispositif. Et quand on bâtit une politique culturelle, si on doit donner une place aux arts d'excellence, on doit aussi donner une place d'excellence à la pensée contemporaine, à la recherche contemporaine, qu'elle soit dans les sciences dites dures, physique, astronomie, mathématiques et biologie, et aussi les sciences sociales, les sciences humaines. Et donc, voilà l'idée qui a été posé, et de dire comment peut-on faire pour que ceux qui ont envie d'apprendre puissent ne pas se sentir en situation de difficulté, parce qu'on n'a pas toujours eu des bonnes notes à l'école, on a parfois un rapport un peu compliqué avec l'école, on a parfois un peu peur de se sentir largué, j'emploie là une formule familière.
Il y en a beaucoup qui sont largués à l'école aujourd'hui.
Hélas, mais...
C'est pas le débat aujourd'hui.
C'est pas le débat. Mériterait un long débat.
Exact.
Mais l'idée a été de dire, voilà, tous les mercredis à 20h30, dans un lieu un peu petit, 500 places.
Au départ, nul ne savait que ça allait être un lieu trop petit.
Mais un lieu chaleureux.
Donc l'Agora est parti sur des démarches modestes.
Un lieu simple, un lieu populaire, un lieu où on se sent bien. Voilà. Il y a un rendez-vous fixé. Donc une unité de temps, 20h30 le mercredi, une unité de lieu et une unité du point de vue de la qualité. C'est-à-dire celui qui va parler, même si des fois il va donner l'impression que c'est complexe,
savant,
le propos reste dans une globalité compréhensible et surtout exigeant. Ça veut dire qu'on ne cède pas à la démagogie, si on peut prendre des images familières, on ne caricature pas, comme on peut le voir à la télévision, ces professionnels du débat public qui, depuis 30 ans, sont les mêmes à la télé. Et puis ensuite, il y a le partenariat avec vous. Et là, je me permets de dire deux choses. D'abord, il est très important parce que vous êtes une radio associative de Montpellier. Et vous, vous êtes là parce que vous êtes à 20h30. Et quand on rate, parce qu'on a la vie de famille, parce qu'on a un empêchement, parce qu'on peut écouter à la radio. Et je voudrais dire que c'est très important parce que ça veut dire qu'on vous êtes dans le média, la médiation, vous permettez aux gens de pouvoir accéder. Et je voudrais faire cette petite parenthèse et à M. Ballan, préfet de l'Hérault, qui est un homme extrêmement courtois, attentif aux problématiques de cohésion sociale. Il faut que, dans les décisions de l'État, difficiles en ce moment, il faut être attentif, solennellement, monsieur le préfet, au statut de ces acteurs associatifs, culturels, qui essayent justement de faire sens dans la ville, donc dans la société. Et c'est vrai que les décisions qui tombent comme ça, à 2 mois de la fin de l'exercice budgétaire pour une radio, où on supprime les CAE, ou en tout cas, on ne donne pas la lisibilité, ça fait mal. Et quand ces décisions-là...
Il faut mettre dans le contexte pour que les divergentes et les divergents qui nous écoutent comprennent de quoi tu parles, Michael. C'est que nous, radio associative, mais toutes les associations du secteur culturel, du secteur sanitaire et social, et j'en passe, et des meilleurs, ont recours à des emplois dits aidés. Ce sont des emplois sur lesquels sont versées des subventions de l'État pour permettre souvent aux jeunes ou aux personnes qui sont en difficulté pour trouver un job de mettre un pied dans une activité dont souvent le corps est l'intérêt général. Hein. On ne fait pas ça dans des entreprises privées. Enfin, c'est pas, il y en a, mais c'est pas la même prise en charge.
Ça aide à faire
et c'est vrai que du jour au lendemain, là... Voilà. Au milieu d'octobre, là, ils nous ont dit bon, ben c'est fini. Voilà. Bon, alors nous, ça nous pose quelques soucis, mais à divergence, on a l'habitude. Donc.
Non, mais je tenais quand même à le dire parce que on mène des politiques publiques qui visent à essayer de parcourir ces objectifs sur lesquels globalement les dirigeants politiques sont d'accord, éduquer, instruire, diffuser la connaissance. Mais à un moment donné, il faut être très attentif. Et moi, ça me ferait franchement très mal au cœur que par des décisions peut-être peu réfléchi ou trop rapide, on ne mesure pas que l'antenne à 20h30 pour les divergents et divergentes s'éteigne parce qu'à un moment donné, cette radio associative qui est un socle de la vie sociale et culturelle à Montpellier, comme les autres, mais qui est important, parce qu'excusez-moi, c'est pas TF1, c'est pas même le service public audiovisuel qui va retransmettre l'Agora des Savoirs. C'est bien parce qu'on a ce partenaire.
Savoir. Alors, avec le succès que c'est en train de prendre, l'année prochaine, vous allez peut-être nous remercier en disant bon, Divergence, vous êtes bien gentil, vous émettez vers 600 000 personnes. Je ne sais pas si 600 000. Nous, on a à peu près en moyenne 40 000 qui nous écoutent, c'est ce qui est déjà pas mal. Mais ça ne fait rien si vous allez sur TF1 l'an prochain. On comprendra cette déviance. C'est pas grave. Alors, moi, je voudrais quand même dire un truc. Moi, ce que je peux dire au préfet, c'est que le préfet n'ait pas de scrupules par rapport à ça. En tout cas, nous, à Divergence, on est une radio associative. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'investissent bénévolement. Et même nous, les salariés qui sont en dessous du seuil de pauvreté, je ne me plains pas, mais c'est vrai, nous avons des salaires qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Mais on l'a choisi. On continuera à faire notre mission de média qui a vocation à faire passer de l'information d'intérêt général. Voilà. Revenons à l'Agora.
Revenons à l'Agora. Alors, si l'année prochaine... Déjà, on peut se féliciter du succès. On va prendre juste une image. La semaine dernière, Sylviane Agacinski,
on va en parler,
philosophe, pendant 1h30, a ouvert sur une leçon, l'inestimable, avec des références allant de Sénèque à Platon, à Heidegger, Weber, le professeur Friedman qui, justement, dans l'actualité, a poursuit l'aventure technique. Donc, ce qui était...
Une controverse en vue, là. Hein.
Tout à fait. oui. Et... Quel bonheur, mais quelle fierté pour un élu de la ville, mais quel bonheur pour le citoyen que je suis de voir qu'il y a 800 personnes qui vont écouter le propos. Et 3 se lèvent, dont on peut comprendre des petites commodités qu'ils avaient à régler. Mais donc, un public qui s'intéresse, évidemment une intervenante qui après était émerveillée par Montpellier et par ce public... Et donc, on peut être certain qu'à l'heure où nous parlons dans les micros, elle est en train de raconter qu'il se passe quelque chose de très intéressant.
Et oui, oui, si, Sylvia Nagasinski est devenue la nouvelle agence de com de l'Agora des Savoirs au niveau national.
Beaucoup d'intervenants. Donc, ça, c'est rassurant. Alors, on a un problème. C'est vrai, on n'arrive pas à accueillir tout le monde parce que la salle est trop petite par rapport à la demande. D'où le partenariat avec Divergence.
Et puis, il faut dire aussi que sur le site de la ville, tout le monde peut, dans les jours qui suivent la conférence, regarder la vidéo qui est faite par la Maison des Sciences de l'Homme de Montpellier, où là, on a l'image et le son, et on peut écouter aussi en direct sur Divergence, et on peut s'y rendre. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc là, vous avez fait carton plein là, sur les possibilités d'accéder justement à cette connaissance.
Exactement. Ne refusez à aucun citoyen l'instruction la plus élevée. C'est aussi utiliser les lieux et les formats de médiation, Divergence en est un, Direct Montpellier Plus, qui fait un travail remarquable, en est un autre, et la Maison des Sciences de l'Homme, par captation vidéo. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a des gens qui disent « Ah ben j'ai écouté sur Divergence », et pas forcément le public traditionnel de Divergence. Donc, voilà,
qui est très divers.
Et qui est très divers.
Mais bon,
et puis,
c'est vrai que...
on a des gens qui nous font des mails de l'espace de la francophonie pour savoir s'ils peuvent utiliser les vidéos... pour les relayer sur des blogs. Moi, j'ai
mais oui, allez-y.
Exactement. Et parce que là, on défend cette idée que le savoir, c'est un bien public. La culture, en général, doit être un bien public. C'est très important de le dire. Ça paraît évident pour nous, Français, mais à l'étranger, ce n'est pas toujours le cas. Et en France, il y a des tendances inquiétantes. Mais donc, voilà. Et alors, est-ce que nous sommes l'université populaire de Michel Onfray ?
Ah ah, c'est pour ça que je posais la question.
Ça appelle une discussion.
En démarrage.
Michel Onfray est un philosophe contemporain qui, dans son espace, a dit « Je descends dans la cité et je parle à la cité ». Et donc, il fait, lui, en tant que philosophe, ces discussions qui ont un succès d'édition certain.
C'est notre Mélenchon de la philosophie.
Nous sommes... Je laisse la paternité de ses propos, je trouve assez juste. Non. Et nous avons dit « Nous ne sommes pas Michel Onfray. Nous sommes la ville de Montpellier. Nous sommes l'institution publique qui doit... faire en sorte de porter, de mener des actions au service de nos concitoyens. Et donc là, le partage de la connaissance dans un territoire qui a 5000 chercheurs, où la puissance de nos laboratoires nous fait rayonner internationalement, contribuer au progrès humain, comment ce dialogue se noue avec les Montpelliérains. Et donc c'est la puissance publique qui le porte, et donc qui fait ses choix de programmation, vous en parlerez tout à l'heure avec Régis, qui a une liberté totale de ce point de vue-là, parce qu'il a l'expertise pour, et donc d'offrir cette programmation. Donc on est différent entre le philosophe qui s'implique dans la cité, très respectable, et d'un autre côté, une puissance publique qui est la représentation du corps collectif des Montpelliérains, qui dit voilà, nous il faut qu'on aille dans cette direction. Comme quoi, les fonctionnaires... le service public, les élus plus modestement de la République, ils peuvent bien faire les choses. Je dis ça pour les... Il n'y a pas beaucoup de détracteurs qui écoutent Divergence, mais ça arrive et voilà.
Ça arrive. Ça coûte cher, l'Agora des Savoirs, organisé ?
Ça coûte. Eh bien, honnêtement, alors, évidemment, quand je vais vous donner le budget à la radio, il y a des gens... Ça représente un coût annuel à la collectivité de 50 000 euros. 50 000 euros...
Nous, c'est peanuts.
C'est peu... si on compare à d'autres dispositifs de la politique culturelle à Montpellier. Bien sûr, c'est beaucoup pour nous tous ici, mais c'est peu de choses. Et soyons transparents, chaque intervenant est rémunéré 500 euros. Pourquoi ? Pour que nous ayons la liberté totale de droit de la conférence qu'il prononce. Et si elle est à caractère exclusif, c'est-à-dire si elle est unique pour les Montpelliérains, nous aurons l'opportunité de les publier. Voilà, ça, c'est très important. Ensuite, ils sont évidemment défrayés. Et l'hospitalité, Montpellier-Rennes, nous vaut de les inviter à dîner. Et on a et puis ensuite, il y a la communication autour pour permettre aux Montpellierains d'être informés. Donc, c'est très peu de choses. Et puis, c'est la location, enfin, les coûts liés à la salle Rabelais. Donc, c'est peu de choses. Peu de choses parce que, globalement, je crois que ça apporte beaucoup de satisfaction. Et puis, c'est normal.
Exactement. Finalement. Alors, revenons. Alors, l'an dernier, l'Agora des Savoirs s'est organisée autour d'une thématique liée à se poser la question des origines, le d'où venons-nous. Et on se rappelle de la leçon inaugurale de Jean-Claude Guillebeau qui nous a fait un exercice d'explication, d'une clarté didactique, etc. Ou alors lui, c'était d'où venons-nous et où allons-nous ? avec une vraie perspective. Et cette année, le choix s'est posé sur la question de avec quelle valeur on est ensemble, en fait. Autour de quelle valeur, c'est pas ça. Alors, je me trompe.
Je laisserai Régis.
Je te vois dodeliner de la tête.
Mais
tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Alors dis-moi.
Dans la conférence de Jean-Claude Guibaud, il y a un point qui nous a apparu majeur, qu'il a très bien énoncé. C'est le décentrement de l'Occident. Et nous, qui sommes français, on a commémoré les 40 ans de la mort du général de Gaulle hier, on mesure bien et la disparition de Claude Lévi-Strauss, qui a été un apport majeur à la pensée sur ces questions-là. Nous mesurons bien qu'à un moment, le rapport à l'autre doit être questionné. Comment pensent les autres ? Comment on a, à un moment donné, pensé des choses dans d'autres termes de la modernité, c'est-à-dire dans l'histoire ? Et donc, cette chose-là dont on sent qu'il est en train de se passer des choses dans le monde, que la Chine, c'est une réalité qui s'est produit des choses incroyables là-bas. Maintenant, on commence à enseigner l'histoire de la Chine seulement maintenant. Voilà, l'Inde, c'est un monde, c'est une civilisation. Donc ça, c'est vrai que le Brésil, bien sûr. On voit bien que la modernité et le progrès n'est pas le monopole de l'Occident. Et d'ailleurs, puis le dialogue avec les civilisations apparaît. Donc on sentait bien que là, on était dans un temps très fort de
flottement.
De flottement, d'éléments qui traversent la civilisation, etc. Et donc interroger. Et puis aussi, on est dans une crise où il y a un moment l'argent. Vous voyez ce que Sylviane Agacinski a pointé, c'est-à-dire aussi dans les valeurs qui fondent la société. Et là, Régis, en programmateur et en explorateur admirable, a pu montrer que dans tous les champs des sciences, qu'elles soient dures, sociales, eh bien, cette question-là pouvait être traitée. Et donc, on n'est pas exclusivement dans un registre de sciences sociales dont on peut voir, mais on voit bien que la physique a des choses à dire dans ce domaine-là, la biologie a des choses à dire, les spécialistes de la biodiversité, c'est-à-dire les sciences environnementales, ont des choses à dire. Et donc, ce thème-là, il y avait une dimension transversale et qui pouvait à la fois nous permettre d'apprendre, mais d'être aussi en résonance avec les termes du débat démocratique qui doit se faire de deux manières, soit par un populisme, soit par un souci d'élever les citoyens pour qu'ils puissent mener le débat démocratique lors des choix. Sous-entendu, ce n'est pas Jean-Pierre Pernaut à 13h qui va dicter le rythme démocratique. Ce sont bien les citoyens parce qu'ils sont accompagnés dans l'exercice de leur citoyenneté.
On va écouter, justement, tu parlais de Sylviane Agacinski qui, moi, m'a beaucoup intéressé. Je sais que je ne suis pas le seul. Mercredi dernier, sur cette leçon inaugurale, on va écouter un petit extrait où elle parle de... Justement, ce rapport aux valeurs, à la science, pourquoi on cherche les choses, etc. Dans quel objectif, etc.
Toute recherche implique par là une prédétermination de la vérité posée d'emblée comme valeur. Si on prend l'exemple de la recherche scientifique, je discutais un jour avec Henri Atlan, qui va venir ici même, des recherches menées sur l'utérus artificiel, et je lui disais, mais au fond, pourquoi on s'acharne à fabriquer, alors que c'est pas sûr qu'on y arrive, lui avait l'air de penser qu'on pouvait y arriver, le docteur Friedman pense plutôt qu'il n'y a pas beaucoup de chances pour qu'on y arrive, mais je dis, mais enfin, c'est un choix énorme d'investir beaucoup d'argent dans la recherche pour fabriquer des utérus artificiels. Pourquoi on cherche ça? Et la question l'a laissé un petit peu dans l'embarras, disons.
Et oui, dans l'embarras, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand l'Agora s'organisera autour de controverses scientifiques sur des thématiques, alors là, moi, je vois bien un Agacinski-Friedman, tu vois, sur la question de l'utérus artificiel. C'est vrai que si on parle de science, on se pose la question de pourquoi on fait telle ou telle recherche, pourquoi on investit dans telle ou telle recherche. On est dans une société où, effectivement, le savoir scientifique aurait une sorte de valeur suprême, comme ça, une sorte de prédéterminisme, d'acquis, comme ça. Et on ne se pose pas la question parce que le potentat et l'aura de la science, avec le L majuscule, fait que circuler, il n'y a rien à voir, je recherche, et puis voilà. Elle, Sylviane Agacinski, elle pose la vraie question. Alors là, sur un terrain sur lequel elle bosse depuis des années... Hein, le génie génétique, entre autres, etc. C'est une féministe et elle a raison de l'être. Et elle dit, arrêtons de marchander le corps parce qu'on y est. Quoi. On est dans l'eugénisme bientôt, là, voire déjà. Quoi. Donc, on revient sur cette histoire des valeurs, c'est-à-dire, alors peut-être Régis ou toi, Michael, nous dire un petit peu comment on se projette là, sur cette Agora deuxième saison, c'est-à-dire 2010-2011, hein, depuis mercredi dernier jusqu'en juin 2011. Les valeurs, c'est-à-dire c'est quoi il faut regretter les vieilles valeurs?
Non, justement, tout l'enjeu était là.
Alors attends Régis, excuse-moi, je te coupe. Michael, tu nous quittes parce qu'en tant qu'élu, tu as beaucoup d'occupations.
On va préparer les redéfinitions de la comédie du livre pour essayer de mieux promouvoir le livre dans la ville. Et donc j'ai effectivement un rendez-vous extrêmement important. Merci à Divergence,
allez,
bien sûr.
Allez, on te laisse s'occuper pour les amis de Montpellierin sur d'autres sujets. À ce soir. Régis, excuse-moi, je t'ai coupé la chic.
Et oui, c'est tout l'enjeu, parce que quand on choisit la notion, le concept, l'idée de valeur comme socle d'une programmation, il y a un écueil à éviter d'urgence, c'est celui de la plainte un peu frileuse d'un monde qui aurait absolument perdu ses valeurs, qui aurait de sociétés qui seraient en perte de repères, un discours du tout fout le camp, de tout s'effondre. Et souvent, quand on regarde ce qui a pu être fait ailleurs sur la question des valeurs, c'est souvent malheureusement l'angle déterminant de la programmation. Nous, avec le comité scientifique, parce qu'il faut quand même préciser que la ville est largement épaulée par une vingtaine d'universitaires représentant Montpellier 1, Montpellier 2, Montpellier 3, qui font ça bénévolement en donnant du temps et un petit peu de matière grise, même souvent beaucoup, pour arriver à établir ce programme. Donc avec ce comité scientifique, on s'était dit qu'on ne voulait absolument pas faire ça, qu'on souhaitait plutôt jouer avec la notion de valeur, avec toutes ces acceptions, la polysémie de ce terme. Et d'abord, avec cette opposition, cette alternance du moins entre le singulier et le pluriel, entre la valeur d'une chose, d'un être, d'un sentiment, d'une idée, ce qu'elle vaut, ce parfois qu'elle coûte même d'un point de vue commercial et marchand. Et puis, dès qu'on passe au pluriel, tout de suite, on tombe sur quelque chose de peut-être de plus hiératique et impressionnant, les valeurs, c'est-à-dire ce socle d'idées partagées par les hommes sur lesquelles eh bien, se fonde l'humain, se fonde la plupart des sociétés, en tout cas celles qui tiennent debout. Et c'est d'ailleurs généralement les valeurs qui permettent à ces sociétés, valeurs partagées qui permettent aux sociétés de tenir.
On va reprendre cette conversation juste après avoir écouté un extrait de l'album Bonjour l'ignorance, c'est-à-dire que là on est dans un registre, on est en train de parler de connaissances, et moi je vais te faire écouter un petit morceau, et à vous qui nous écoutez ce morceau de l'album Bazar Savant de Lojo qui s'appelle Bonjour l'ignorance.
Le salut d'une chanson qui parle et le salut des choses sans importance qui tout ensemble font l'étoffe de l'au-delà des apparences. Les mers immenses du monde.
Je te donne le salut de l'amour un soir dans un café des Olivettes, le salut des flammes de l'ivresse et le souvenir des pierres marines.
Chanson qui parle des rythmes de septembre, d'une robe qui danse. Le salut d'une planète foraine avec ses marchés d'ombre, d'un maçon poète, d'une confidence faite à la terre. Des apparences, des mers immenses du monde.
Je te donne le salut de la façon des arbres, du chemin des animaux, le salut des certitudes qui s'effilochent ce matin.
Salaïe, palaïe, salaïe, palaïe.
Lojo, bonjour l'ignorance, extrait de l'album Bazar Savant, paru il y a déjà quelques années, 4, 5 ans, voire 6 ans. Je n'ai pas l'album sous les yeux. Nous sommes en compagnie de Régis Penalva, qui est l'un des mousquetaires de l'Agora des Savoirs, puisque moi je les connais au nombre de 3, mais ils sont plusieurs, hein, il y en a plusieurs, mais les 3 mousquetaires, c'est Michael Delafosse, Michel Miaille et Régis Penalva, qui est libraire jusqu'à l'an dernier, qui avait déjà démarré sur l'Agora première saison et qui a remis le couvert. Alors, on était en train de parler de la thématique de cette année. Je voudrais revenir sur ce que disait Sylvia Nagasinski en parlant de Régis Penalva.
Donc, j'espère ne pas décevoir Régis Penalva, mais je ne parlerai pas du tout de sexe aujourd'hui.
Pourquoi ?
Ah mais je pense que c'est toujours le problème du jeune âge. Ça provoque souvent des saillies et des un peu piquantes et ironiques.
J'ai le sentiment.
Mais essentiellement aussi parce que dans ma présentation, j'avais insisté beaucoup sur les travaux qu'elle a pu effectuer et écrire sur la différence des sexes.
On est bien d'accord. Là,
mais je ne sais pas si elle se serait permis de faire la même plaisanterie à un monsieur un peu plus âgé, mûr. Et...
C'est ça. Donc on a comme ça un mousquetaire qui fait vriller Sylvia Nagasinski. Et ça, c'était dès le début de la conférence. Ça vous donne un peu le ton de détente qu'il peut y avoir à la salle Rabelais tous les mercredis soirs à partir de 20h30. Bon, allez, passons à des choses un peu plus concrètes. On revient donc sur... on va parler de deux choses maintenant ensemble, si tu le veux bien, Régis. C'est l'Agora des Savoirs, un petit peu le déroulé de cette année. Et puis après, tu voulais nous parler de l'Agora Junior.
Oui, alors d'abord le déroulé de la programmation, il y a 3 axes forts à cette programmation. D'abord la question des valeurs envisagées au prisme des savoirs et des sciences, c'est-à-dire les idéaux sur lesquels reposent les savoirs et les différentes sciences, parce que effectivement ce ne sont pas des disciplines objectives, mathématisables, elles reposent sur des croyances, sur des choix, sur des postulats, sur des histoires et sur toute une sociologie de la recherche. Et donc, on a voulu interroger ces idéaux de la recherche. Ce soir, d'ailleurs, la conférence de Dominique Lecourt, intitulée « Le mythe de la science fonctionne-t-il encore ?», sera très largement consacrée à cette question-là, celle des idéaux qui structurent et qui font avancer le savoir scientifique, à savoir... scientifique, faut-il le rappeler, qui est actuellement en butte à des critiques, au moins depuis une trentaine d'années, mais ça avait même commencé avant de manière plus diffuse, à des critiques très fortes quant au rôle qu'il a dans nos sociétés, dans nos vies, quant au risque qu'il peut faire peser parfois dans certaines de ses réalisations techniques sur l'avenir de nos sociétés et même de l'homme. Et aussi en but à un retour de l'irrationalisme assez fort ces dernières années aux États-Unis, mais qui commence progressivement sur des questions d'évolution, par exemple, à revenir en force. Donc la première partie sera consacrée à cela. La seconde, ça sera la question des valeurs vues à travers le prisme de nous et les autres, savoir si les valeurs sont universelles, si certaines d'entre elles le sont du moins, ou si elles sont absolument toutes relatives, et surtout que faire et que se passe-t-il lorsque nous tombons sur l'altérité radicale, sur celle qui remet en cause beaucoup de croyances, beaucoup de certitudes. Il y aura une conférence sans doute passionnante d'un professeur de sciences politiques qui s'appelle René Otaïek sur la France et l'autre. C'est comment le modèle français ou les modèles français ont eu à travailler et à réagir à l'arrivée de l'autre au 19e, au 20e siècle, avec différentes phases d'immigration et avec des discours politique souvent contradictoire entre deux modèles, l'universalisme parfois...
européocentriste.
Voilà, exactement. Et puis d'autre part, le différentialisme, mais qui souvent a tendance à tomber dans le communautarisme. Le
choc des cultures, voilà, donc, des civilisations. Oui.
Ça, c'est la deuxième partie. Et puis la troisième, on va faire un focus sur 8 questions contemporaines, sur 8 défis que la science nous pose et qu'elle pose à notre appréhension des valeurs. Qu'est-ce que les avancées en biotechnologie en particulier font à nos systèmes de valeurs, en quoi ils les menacent, faut-il les préserver, faut-il être sur une position strictement défensive ou faut-il, à la suite de Nietzsche, en inventer, en forger de nouvelles. On en aura peut-être une idée à la fin de ce cycle, du moins je l'espère.
Alors, on va écouter un dernier extrait de la conférence de Sylvia Nagasinski de mercredi dernier, justement. Elle parle de notre fascination pour la puissance, pour la science. Hein.
Alors pour me résumer, je dirais que plutôt que d'imputer la crise des valeurs à un effondrement intrinsèque de la religion ou de la métaphysique ou de l'ontologie fondamentale, qui sont fondatrices, qui ont été fondatrices de vérité et donc de valeurs, nous devrions nous demander si l'extension de la vérité techno-scientifique et l'installation du modèle opérationnel du savoir comme seul savoir vrai n'est pas en partie responsable de la dévaluation de toute autre façon de considérer la réalité et donc de toute autre valeur. Loin de signifier que la science est libre de valeur, l'extension de sa puissance, c'est-à-dire en fait notre fascination à tous pour la puissance, c'est parce qu'on est fasciné par elle qu'elle a cette puissance. Et notre fascination pour sa puissance, cette extension fait que nous voyons en elle, en fait, le seul fondement de la vérité, et de la vérité certaine, et donc, au fond, l'unique fondement de la valeur. C'est la raison pour laquelle on entend si souvent « mais si c'est possible, pourquoi pas ?» À ce stade, il reste donc à travailler, et ce n'est pas très facile, à une nouvelle conversion de notre regard sur la nature et sur nous-mêmes, et à prendre la responsabilité de ce qui est absolument estimable, de ce qui est donc au-delà de toute estimation et de tout calcul, et en ce sens, ce qui est inestimable.
Eh oui, ce qui est inestimable.
Bien sûr, ce qui est en jeu, en fait, ce n'est pas une remise en cause du rôle de la science, de ses ambitions et de sa beauté et de sa grandeur. Ce qui est en cause, en réalité, c'est le couplage, un couplage dangereux et mortifère qui s'est établi entre, d'une part, la recherche scientifique et, d'autre part, les puissances de l'argent soumises généralement à des impératifs de domination politique. Et c'est là-dessus que se joue. Et c'est là-dessus aussi qu'achoppe, d'ailleurs, tout un certain nombre de discours qui attaquent la science et les scientifiques et les rendent responsables. Les scientifiques ne sont malheureusement responsables de pas grand-chose. Hein. Ils sont généralement dépossédés très rapidement de leurs découvertes et de leur savoir. En réalité, c'est le pas qui a été pris par la recherche appliquée sur la recherche fondamentale et c'est un choix qui a été fait depuis au moins 60 ans, qui pose actuellement problème, et non pas évidemment la quête de savoir, l'idéal de savoir scientifique qui, lui, est au contraire, a sans doute aujourd'hui à réactiver.
Une science, si on peut généraliser, faire du générique comme ça, une science qui devient destructrice, ça me fait penser à ce que disait il y a quelques années Hubert Reeves, l'astrophysicien, en disant de toute façon... Le destin de l'homme est d'aller vivre ailleurs dans l'univers. Ça présupposait que lui, scientifique, c'est vrai, porté vers l'univers, il voyait très bien aussi comme poète et comme philosophe que, bon, en matière de valeurs, il ne fallait pas trop compter sur l'humanité, l'homme sale, bête et méchant, pour justement se contraindre à une éthique du vivre ensemble et de se développer dans une harmonie la plus totale. Mais ne soyons pas totalement pessimistes, il reste encore des champs de fleurs.
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'on aborde maintenant cette agora des savoirs juniors?
On va aborder, oui, au moins deux choses. Alors tout d'abord, toujours sur l'agora des savoirs, on a la joie ce soir d'accueillir pour la première fois une quarantaine d'étudiants de l'Université Montpellier 2. On a passé un accord de principe avec cette université. On espère
qu'ils viennent s'asseoir.
Voilà, on espère la généraliser avec Montpellier 1, Montpellier 3. C'est parce que nos étudiants à Montpellier, ils ont souvent des contraintes horaires assez fortes, des cours qui finissent à 19h, à 19h30, parfois à 20h. C'est le cas à l'UM2, en
ouais,
tout cas.
Mais on peut sécher à la fac. Qui n'a pas séché un cours pour se rendre à un concert ou à un truc qu'on peut faire ça pour
ce sont des
conférence.
Étudiants sérieux à Montpellier, voilà. Et donc, on a convenu qu'on serait ravis de les accueillir parce que souvent, on est obligé de refuser les derniers arrivés. Les derniers arrivés sont souvent les étudiants. Donc, on va faire en sorte de pouvoir les accueillir mieux. Avec la pluralité des publics.
Il va y avoir des places réservées
Il y aura un petit... c'est sur demande. On réserve quelques places pour ceux qui vraiment ne peuvent arriver. Ce qu'on faisait déjà, d'ailleurs, pour tout le public. Il suffisait d'envoyer un mail ou de passer un coup de fil et ça se faisait. Là, on le généralise au campus.
Et les coussins dont je parlais pour les fesses
C'est une bonne idée. Il va falloir voir si on a une ligne budgétaire pour des coussins.
Bon, nous lançons l'appel. Si vous avez dans votre garage ou votre grenier des coussins dont vous ne savez que faire, eh bien, la ville de Montpellier, enfin, en tout cas, apportez-les à la... au centre Rabelais sur l'esplanade et on s'en servira.
Ça, c'est un premier geste, une main tendue aux étudiants, mais surtout, là, dès le 18 novembre, c'est-à-dire jeudi prochain, on commence l'Agora Junior. Alors, l'Agora Junior s'adresse aux écoles primaires, classes élémentaires, en fait, et cours moyens. Et nous avons proposé à 5 ou 6 de nos conférenciers pour cette première année, parce qu'on est évidemment dans une phase d'expérimentation, donc on teste le dispositif. On a ciblé 6 conférenciers qui, le lendemain matin, iront rencontrer une classe de Montpellier, une classe d'enfants, qui aura en amont largement préparé avec son enseignant ou son enseignante assez souvent la rencontre grâce à des livres que la ville de Montpellier leur met à disposition, leur offre un livre par enfant. Donc nous commençons le 18 novembre avec l'école Blaise Pascal et une classe de CM1, 27 enfants à qui nous avons offert le livre de Marilyn Patou-Matisse, La Préhistoire chez Fleurus, qui est vraiment fait pour des enfants de 8-10 ans. Et depuis 3 semaines maintenant, ils travaillent avec leur enseignante sur Néandertal, sur la préhistoire. Et le 18 novembre, ils accueilleront au sein de leur classe Marilyn Patou-Matisse, qui est une grande dame de la paléontologie, professeure au Muséum national d'histoire naturelle, et qui va venir voir les petits bambins et discuter, répondre à leurs questions. Peut-être aura-t-elle dans son sac des surprises qui surgiront du fond du sac, un os, un fémur, un petit bout de dent. Les enfants sont...
Partoutatis.
Voilà, les enfants sont extrêmement... D'abord, étaient réellement heureux de recevoir un livre. Il y avait... ça faisait plaisir de faire autant plaisir quand on leur a amené les bouquins. Et puis, j'ai eu l'enseignante hier. Ils sont extrêmement excités à l'idée de recevoir cet auteur. Et ils en parlent à leurs petits camarades dans la cour d'école, des autres classes, qui sont d'ailleurs assez jaloux de ne pas savoir.
Oui, parce que c'est un livre. Il y a même
un DVD avec.
Mais on peut faire plaisir, effectivement, à un enfant en lui offrant... un livre, oui. Plus que ce qu'on croit.
Ah, mais oui, tout à fait. Plus voilà, donc on commence avec cette classe le 18 novembre et puis on va continuer. On va, je crois, au mois de décembre, Ahmed Djebar va, le lendemain de sa conférence, aller rencontrer une classe de CM1 toujours sur les sciences arabes et sur l'âge d'or des sciences arabes au Moyen-Âge et au début de l'ère moderne. Et puis, voilà, on va continuer et on espère évidemment le généraliser l'année prochaine. En tout cas, étendre le dispositif, passer de 6 rencontres à une douzaine. Et puis, pourquoi pas faire de mieux en mieux. Bon, tout le monde n'est pas susceptible et capable de parler à une classe, mais voilà, je crois que c'est aussi pour les conférenciers un bel enjeu, une belle motivation.
On va écouter Loïc Lantoine, un extrait de l'album Badaboum, lui aussi paru comme celui de l'Ojo il y a quelques années. Le titre s'appelle Badaboum.
Ils ne sont pas chantés.
Bah vous chantez pas alors?
Non.
Bah donc c'est pas de la chanson.
Bah si, c'est de la chanson pas chantée. T'es con ou quoi?
On a du
brouillard dans le cigare. Mais on refuse d'être dans le cirage. Dans le bordel on se gare. C'est pas qu'on essaye pour d'être sage. On en trouve encore à nous dire qu'on a rien compris à la vie. Arrête un peu, on va rire. Ou explique-nous si t'as envie. C'est vachement compliqué d'être né, mais c'est marrant d'être vivant. On est tout le temps étonné. Et puis on sera pas mort avant. Alors, c'est quoi? C'est ça la vie, hein? Ben ça résonne.
Badaboum, un coup par terre, un coup de boum, boum, badaboum, un coup t'es bien la terre, boum, boum, badaboum, tu pioches dans l'or ou dans la boum, boum, badaboum, ta tête fait que l'on vient, le boum, boum.
Badaboum. Si on sait pas tout le temps bien faire, c'est qu'on comprend rien au bazar d'un bon Dieu ou d'un Lucifer. C'est quand que c'est bien, c'est quand que c'est mal. Alors ben devine, on devine, et même des fois où on s'en doute, on danse dans un champ de mine, puisqu'il y a 3 milliards de routes. Une tête, un corps, un palpitant, et démerdez-vous mes chéris, on n'est pas armés pour longtemps, mais j'ai un pote, il dit que ça suffit. Alors, c'est quoi? C'est ça la vie, hein? Ben ça résonne.
Badaboum, un coup par terre, un coup de boum, boum. Badaboum, un coup, t'es bien lancé à boum, boum. Badaboum, pioche dans l'or, dans la boum, boum. Badaboum, t'es bien, t'es carrément bien, boum, boum. Badaboum, hein.
Oh, ça empêche pas de dire bonjour. Ça empêche pas les éclairs, je te parle pas des histoires d'amour. Les poulets qu'on a fait cuire, on comprend rien. Mais on y va et c'est là que ça devient beau. C'est parce qu'on est tous dans le même cas, faut avouer que c'est rigolo. Alors si tu parles, je me tais. Et puis si tu ris, ben je pleure. Faut juste qu'on soit et tout ça, c'est mais. À part machin là. Et sa sœur.
Boum, boum, badaboum, ma coupe par terre, un coup de. Boum, boum, badaboum, un coup, t'es bien loté à boum, boum, badaboum, tu pioches dans l'or ou dans la boum, boum, badaboum, ta tête t'es calme ou bien le boum, boum. Ah, ah,
badaboum.
T'es tout, tiens, oh, 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 oh.
Boum, boum, badaboum, un coup par terre, un coup de boum, boum, badaboum, un coup t'es bien lancé à boum, boum, badaboum, tu pioches dans l'or, dans la boum, boum.
Badaboum, 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 boum, boum. J'adore ce badaboum là. Loïc Lantoine, je suis en compagnie de Régis Penalva. L'un des initiateurs, le pilote, le programmateur de l'Agora des Savoirs, une trentaine de conférences qui ont démarré mercredi dernier. La deuxième, ce soir, il y a celle de Dominique Lecourt sur le mythe de la science fonctionne-t-il encore. Et tout ce programme va se dérouler jusqu'en juin 2011. Vous retrouverez ces conférences tous les mercredis soirs. En direct, avec une retransmission intégrale et sans coupure d'aucune sorte, sur le 93.9 de Divergence FM. Vous retrouverez aussi dans le lendemain ou dans les jours qui suivent la vidéo de la conférence que réalise la Maison des Sciences de l'Homme de Montpellier. Et puis il y a d'autres partenaires, hein, sur cette Agora des Savoirs. Il y a évidemment la librairie Serams qui vient tous les mercredis soirs proposer un aéropage d'ouvrages autour de la thématique du soir. Et puis il y a le journal
Direct Montpellier Plus qui, le matin, offre à ses lecteurs
un entretien
du conférencier ou de la conférencière.
Ok, on revient sur la conférence de ce soir, si tu veux bien, Régis.
Voilà, donc Dominique Lecourt. Bon, Dominique Lecourt, c'est un sacré bonhomme.
J'ai l'impression.
Professeur 10. Oui, ça a été très compliqué d'abord de l'avoir.
J'imagine.
Il était invité pour la première saison et on l'a eu pour la seconde. Il a un délai d'attente à peu près d'un an, un an et demi.
Attends, je vais faire son truc. Ah, regarde sur le dossier que j'ai sous les yeux, donc Dominique Lecourt, pour vous le présenter. Alors, moi aussi, je le découvre, parce que je le connaissais mal, philosophe. Dominique Lecourt, il est professeur à l'Université Paris Diderot. Il dirige le Centre Georges Ganguilhem. Il est directeur général de l'Institut Diderot, du Fonds de dotation pour le développement de l'économie sociale du groupe d'assurance mutuelle MAF, MMA, GGMF. Il préside le Conseil de surveillance des presses universitaires de France. Il est l'auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages, donc Contre la peur chez PUF et Humain, post-humain chez PUF. Bref, voilà. Un homme actif.
C'est aussi le directeur d'un livre fondamental, le dictionnaire d'histoire et de philosophie des sciences au PUF et le dictionnaire de la pensée médicale au PUF, donc de maître volume qu'il a dirigé il y a quelques années. Donc un homme très occupé. On pourrait dire que c'est un des mandarins de la recherche française, vu sa position institutionnelle et son pouvoir. Et c'est en tout cas un des esprits les plus intéressants de ces 25 dernières années en philosophie française. Il a beaucoup travaillé et c'est pour ça qu'il est là ce soir sur la question de la science. Et il évite les deux écueils. Le premier écueil, celui de la foi aveugle en la science et forme de scientisme dur, il en est éloigné, mais ce n'est pas pour autant qu'il tomberait dans une dévalorisation ou un dénigrement de l'activité scientifique. Il réfléchit en historien, il constate qu'au XIXe siècle s'est constitué ce qu'on pourrait appeler le mythe de la science qui avait au moins deux postulats, celui de sa toute-puissance.
C'est la première époque de l'industrialisation, en tout cas en Europe.
Et puis des très grandes avancées scientifiques dans le champ de l'électromagnétisme, dans le champ de la thermodynamique, dans le champ de la physique, etc.
Oui, c'est le siècle où on est passé de Cugno à tout autre chose.
Voilà, et à côté de ce postulat de toute-puissance qui était effectif, il y avait celui d'émancipation, cette croyance inscrite dans l'esprit encyclopédiste des Lumières que l'accumulation des connaissances et la progression des savoirs scientifiques et techniques découlerait forcément sur un mieux-être, sur un vivre ensemble plus harmonieux et même sur la capacité d'y conduire. C'est-à-dire qu'on a longtemps cru que la science nous permettrait, qu'on aboutirait un jour à une science des sociétés et à une ingénierie des sociétés. Ici à Montpellier, Auguste Comte, né ici même, en a été le très grand penseur de cette croyance-là. Et force est de reconnaître qu'au XXe siècle, les choses ont progressivement et sévèrement dérapé, que ce mythe de la science s'est effrité. Qu'en face de lui se dressent de nouvelles formes d'irrationalisme, de rejet de la science, de rejet du progrès et de la connaissance. Et il va venir nous faire un petit état des lieux de ce qui reste aujourd'hui du projet scientifique.
Et oui, alors ce que je dis, c'est qu'au mythe de la science semble se substituer un retour au mythe de la nature. Hein, c'est vrai que c'est... Dans l'air du temps.
C'est souvent malheureusement les retours de balancier. C'est qu'après avoir trop cru à la science et à la société, on aurait tendance à vouloir nous réfugier dans l'ignorance, dans l'immédiateté des sensations et dans un mythe de la nature qui est, faut-il le rappeler, tout aussi construit que celui du mythe des sciences, puisque le mythe de la nature est une superbe fiction rousseauiste qui d'ailleurs apparaît, et c'est sans doute pas pour rien, au même moment que l'idéal encyclopédiste du progrès scientifique.
Justement, c'est de quel contrat social parlons-nous quand on fait quoi que ce soit. On le sait, aujourd'hui, c'est... Ce sont des choix politiques, mais avec cette limite, tu en parlais tout à l'heure, de l'économique, quoi. C'est-à-dire que qui décide ? La pensée, le philosophe, l'engagé, le citoyen ou le financier. Et la dérive aujourd'hui, c'est ça. Alors en même temps, il ne faut pas s'en plaindre parce que effectivement, cette toute puissance de la science a amené des progrès et du mieux-être. Évidemment, même si certains et nombreux n'ont pas de quoi boucler les fins de mois et n'ont pas le minimum, même dans nos pays, on s'est retrouvé avec une élévation.
Une élévation certaine du niveau de vie. Alors, concorde-t-elle avec une élévation du mieux-être et du bonheur ? Ça, c'est une autre... C'est une autre question.
Non. J'ai voulu m'acheter des godasses hier. J'ai vu que la moindre paire de godasses est à 100 euros. Alors là, moi, le mieux-être, je vais retourner aux puces, acheter des godasses d'occasion.
Voilà, et donc cette élévation du niveau de vie et ces progrès scientifiques sont incontestables, et Dominique Lecourt ne va absolument pas les remettre en cause. Qui pourrait les remettre en cause ? La question est de savoir si effectivement une société et des projets politiques ne peuvent s'adosser qu'à un complexe techno-scientifique et financier. Là, ça reste beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sûr.
Un dernier extrait de la conférence inaugurale, leçon inaugurale qu'avait donnée Sylviane Agazinski mercredi dernier, à propos de, justement, du respect dans tout ça, de la notion de respect.
Qu'est-ce que c'est le respect ? Ça appartient à la même logique que n'importe quelle autre conduite. Parce que le respect, l'estime... C'est pas théorique, c'est une pratique, le respect, c'est une conduite qui consiste précisément, et j'ai pas trouvé de meilleure solution, je l'ai trouvé d'ailleurs nulle part, ni de meilleure définition, mais pour moi, le respect n'est rien d'autre que la retenue de la puissance. Le respect, c'est exactement ça, c'est retenir à un moment donné son pouvoir. Ce qu'on pourrait faire, on ne le fait pas par respect. Que ce soit le pouvoir de s'emparer, de transformer, de disposer des choses, même de les détruire. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais été si frappée par l'expression « mise à disposition de l'utérus ».
Ah, ça, c'est son sujet préféré. si je voulais qu'on écoute cet extrait, c'est parce que tout ça a un lien. C'est-à-dire, quand on est dans la toute-puissance comme ça de la science, avec ce mythe donc de... Les sciences vont apporter le mieux-être, etc. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. On avance et puis on applique. En même temps, de temps en temps, effectivement, si on veut vivre ensemble, il faut savoir retenir sa puissance. Il faut savoir retenir les conséquences de l'accumulation des connaissances et de certaines...
Rien de nouveau sous le soleil.
Rien de nouveau.
C'est un vieux principe de la... déjà apparu philosophie grecque. Hein,
exact.
Avec le souci de la mesure chez Aristote, par exemple. Mais je pense que le stoïcisme et l'épicurisme, quoique de manière différente, ont aussi développé ce principe-là, celui de la retenue, de la mesure. C'est effectivement, on constate depuis une vingtaine d'années un appel à revenir justement à ce principe de mesure et de retenue. Je pense à un philosophe montpelliérain comme Jean-Claude Michéa, qui lui s'appuie sur d'autres bases, mais celui de la common decency, la décence commune, celle qui effectivement consiste à adopter un comportement décent. Alors qu'est-ce que c'est que la décence ? C'est justement cela aussi, c'est cette capacité de ne pas user de manière inconsidérée de sa puissance et de son pouvoir. Donc oui, c'est pas étonnant de la part d'une historienne de la philosophie grecque comme Sylviane Agazinski, parce qu'elle l'est aussi d'entendre ce type de propos et de rappels.
On va bientôt se quitter. On est arrivé au terme de cette heure d'entretien pour vous présenter divergentes et divergents l'agora des savoirs. Ce soir, donc, on vous donne rendez-vous sur les ondes de Divergence FM dès 20h30 pour la retransmission intégrale et en direct de la conférence que donnera Dominique Lecourt autour du thème « Le mythe de la science fonctionne-t-il encore ?» Régis Penalva, un dernier mot. On se reverra, tu reviendras sur notre antenne.
Hein, oui, je reviendrai.
Des différentes conférences. Nous, à Divergence, on ira se balader aussi. Les matinées, là, vous allez envoyer...
L'Agora Junior.
Allez, on va aller se balader avec des magnétos de reportage. Donc, je rappelle que vous pouvez donc écouter en direct dès ce soir. Vous pouvez podcaster l'émission dès demain matin sur le site de Divergence. Vous avez un petit logo Agora des Savoirs. Vous cliquez dessus, laissez-vous guider, c'est fastoche. C'est vrai que le site de Divergence est des fois un peu compliqué, mais nous sommes Divergence, vous savez. Et puis, je l'ai dit, une maison des sciences de l'homme de Montpellier qui filme. Donc, si vous aimez aussi l'image, moi aussi j'aime l'image, on peut regarder la vidéo.
Sur le site Parole de chercheur pour l'instant. Et puis, sur le site de la ville dans quelques jours.
Oui, mais il y a aussi sur le site de la ville toute la saison dernière
qu'on peut
regarder. Je vous le précise aussi, sur le site de Divergence, sur le site de Parole de chercheur, sur le site de la ville, vous avez toute la saison dernière. Et là, vous avez, franchement, je vais vous dire un truc, des petites perles. L'an dernier, je peux vous assurer qu'il y a eu des moments où la conférence s'est transformée en spectacle et où, en même temps qu'on apprenait des choses, on se divertissait. Alors ça, c'était pas mal. Régis, merci d'être venu.
Merci beaucoup.
À ce soir pour nous.
À ce soir et puis dès demain, les AT aussi.
Et demain, les zones d'activité artistique temporaire qui démarrent à Antigone ce 11 novembre. On a déjà parlé hier sur Divergence, on va en parler dans les jours qui arrivent. On suit ça de près.
À bientôt.
Ciao.